Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à prendre le livre le plus fabuleux du monde dans vos mains et de l'ouvrir dans l'Évangile selon Marc. Alors Marc au chapitre 10 et nous lirons les versets 13 à 31. Donc Jésus est avec ses disciples et d'autres personnes qui sont avec lui. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Puis il embrassa, les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant devant lui, il demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages et ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « « Maître, j'ai gardé cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais il s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement dans ces temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Je vous invite encore à aller dans l'Épître aux Romains. Alors, Romains 3, nous lirons donc le verset 20 et ensuite 23 et 24. « Car nul ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et verset 23, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Qui peut arrêter les vents? Qui peut donner la vie? Qui peut transformer un cœur? Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, parce que tout est possible à Dieu, et c'est par son esprit qu'il agit dans nos cœurs pour appliquer sa parole à nos vies. Et nous comptons justement sur son œuvre encore ce matin, pour que nos vies soient touchées par cette parole. Et c'est un plaisir de prolonger le journal de Marc, hein, nous sommes en train de faire une série sur l'évangile selon Marc, qu'on appelle le journal de Pierre, écrit par Marc. Car il nous raconte l'histoire de celui que nous aimons, notre Seigneur Jésus-Christ, de celui que nous adorons, de celui que nous voulons suivre. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Et nous verrons deux articles aujourd'hui. Le premier petit article nous parle de l'accueil des petits-enfants par Jésus. Et par cette rencontre avec des enfants, il nous donne un principe important concernant le royaume de Dieu. Et le deuxième article du jour nous rappelle la rencontre de Jésus avec un homme qui se voyait sans reproche, mais qui avait une idole qui l'éloignait du cœur de Dieu. Marc nous transmet ce que Pierre a compris de son maître, et en donnant les détails des rencontres avec ces personnes, avec les enfants, avec cet homme, nous avons un riche enseignement concernant la manière d'évangéliser de Jésus. Nous avons trois parties ce matin, que nous retrouvons dans ce texte. Les versets 13 à 16, nous verrons que Jésus donne un principe. Versets 17 à 22, nous verrons que Jésus vit un exemple. Et les versets 23 à 31, Jésus explique ce qui s'est passé. Donc ce sont les trois points de la prédication d'aujourd'hui que j'appelle simplement l'évangélisation selon Jésus. Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans l'évangile selon Marc. Et nous relisons les versets 13 à 16 pour entrer dans notre premier point qui s'intitule « Jésus donne un principe ». Marc 10, 13 à 16. « Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. » En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Jésus aime les enfants. Il les aime vraiment. Mais non seulement il les aime, mais il les prend pour montrer aux disciples une manière d'aimer et de vivre. Il a déjà pris un petit enfant pour illustrer l'importance d'accueillir même le plus petit, le plus insignifiant. Peut-être que vous vous souvenez de cela, on avait vu ça dans un article précédent, c'était dans Marc 9, les versets 36 à 37. On a vu ça dans une prédication que j'avais intitulée « L'humilité de Jésus contraste avec l'orgueil des disciples ». Jésus, ici, ne va pas chercher un enfant. En fait, on les amène à Jésus. On amène ses enfants à Jésus, mais les disciples font des reproches à ceux qui les amènent. Et là, Pierre est le seul à relever un élément que les autres n'ont pas relevé. Vous retrouvez cette histoire dans Matthieu et dans Luc, la même histoire, puisqu'on a plusieurs témoins qui parlent de ce que Jésus a vécu. Mais Pierre dit une chose que les autres ne disent pas. Il dit que Jésus était indigné. Indigné. Jésus n'aime pas ce que font ses disciples ici. Il a un grand déplaisir, il va donc intervenir. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Et Pierre ensuite souligne, ce que les autres ne disent pas non plus, qu'il embrasse les enfants. Pierre est attentif aux sentiments exprimés par Jésus et à ses gestes d'affection, parce qu'il a compris que cela avait une signification. Et ici, clairement, Jésus veut souligner l'importance aussi des enfants, non pas pour les faire rois, mais pour montrer leur valeur aux disciples à cette époque-là. Et il va profiter de poser un principe de l'entrée du royaume de Dieu. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut le recevoir comme un petit enfant. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut le recevoir comme un petit enfant. Le recevoir comme un petit enfant. C'est pas dit être comme un petit enfant. Le recevoir comme un petit enfant. Un petit enfant, en fait, est complètement dépendant. Il est complètement dépendant. D'ailleurs, les petits-enfants ne sont pas venus seuls à Jésus, ce sont des gens qui les ont amenés. Il est complètement dépendant. Deuxièmement, un petit enfant est sans moyens. Il y a des films qui... je crois qu'il y en a même un qui est sorti il n'y a pas longtemps. On voit un petit enfant qui se fait beaucoup d'argent. Ça, c'est un film. Dans la réalité, vous ne verrez pas un petit enfant d'une année, deux ans, se faire de l'argent. Non. Et même s'il a un héritage, il n'est pas capable de se servir de ses richesses. Il est sans moyens. Ensuite, troisièmement, un petit enfant est dépourvu. Il est dépourvu de preuves de bonne conduite dans sa vie entière. Il ne peut pas dire, un enfant de 6 mois, je n'ai pas commis d'adultère ou de meurtre. On parle ici de petits-enfants. Il est dépourvu de preuves de bonne conduite. Quatrièmement, un petit enfant a confiance envers ceux qui lui veulent du bien. Il a confiance en ceux qui lui veulent du bien. Il est prêt à se jeter d'un mur dangereusement haut parce que son père est là pour le rattraper. Il a confiance. Le principe pour celui qui veut recevoir le royaume de Dieu est de recevoir Jésus comme un petit enfant, dans une dépendance complète, sans capacité de paiement, sans mérite et dans une totale confiance. Le royaume de Dieu est pour ceux qui vivent cela. Le principe est posé. Et voilà qu'un homme accourt pour se jeter aux genoux de Jésus et demander comment hériter la vie éternelle. Est-ce qu'il a entendu ce que Jésus vient de dire ? Vient-il se sachant complètement dépendant, sans moyen d'acquérir la vie, sans mérite et faisant totalement confiance à Jésus ? Jésus va répondre à la demande de salut de cet homme d'une manière qu'il nous enseigne. C'est notre deuxième point, et nous allons simplement relire les versets 17 à 22 de ce texte pour les avoir bien en tête. Comme Jésus se mettait en chemin, donc il avait terminé avec les enfants, il allait partir. Hein. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses pieds devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais il s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jusqu'ici. Voilà un homme qui est intéressé par la vie éternelle. C'est la bonne aubaine. C'est la bonne aubaine. Non, franchement, si quelqu'un vient vers vous et dit « Comment est-ce que je pars la vie éternelle ?» C'est génial. Hein ? C'est la situation parfaite pour lui annoncer l'évangile et lui faire prendre une décision pour sa vie. La façon moderne d'agir serait « Jésus t'aime !» Prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur. Dis cette prière et tu auras la vie éternelle. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant, je le reconnais comme sauveur personnel. L'homme intéressé s'exécute avec ferveur et voilà un nouveau converti. Continuons notre chemin. Mais est-ce que Jésus agit ainsi ? Non. Jésus fait 3 choses. La première, c'est qu'il fait lever les yeux à cet homme pour voir Dieu. Il fait lever les yeux de cet homme pour voir Dieu. Deuxièmement, il fait baisser les yeux pour voir sa situation. Et troisièmement, il prépare le cœur de cet homme pour le transformer. Voilà ce que Jésus fait. Soulignons encore, avant de nous pencher sur ces 3 éléments, que la motivation de Jésus devrait aussi toujours être la nôtre. C'est un élément très important. S'il y a une ou deux choses à retenir ce matin, c'en est une, celle-là. Il y en a d'autres aussi, mais ça, c'en est une très importante. Jésus aime cet homme. Jésus aime cet homme. Il en a compassion. Et il est si important pour lui qu'il ne cherche pas sa propre popularité, de quelque part faire des adeptes, faire des adeptes anonymes, si vous voulez. Non. Il l'aime. Et il veut qu'il devienne un disciple qu'il connaît. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. N'oublions jamais cette phrase lorsque nous voulons parler de la vie éternelle à quelqu'un. Ça doit revenir, ping, dans la tête. Jésus l'aima. Observons maintenant comment Jésus agit. Donc j'ai dit la première chose que Jésus fait, c'est Jésus fait lever les yeux de cet homme. Jésus commence son message d'évangélisation en fixant de manière solennelle l'attention de ce jeune homme sur le caractère unique de la bonté de Dieu. En d'autres termes, sur sa sainteté parfaite. Cet homme a les yeux fixés sur lui-même. Vous comprenez que ce n'est pas nos yeux physiques, on n'arrive pas à se regarder sans miroir. C'est les yeux du cœur. Donc, cet homme a les yeux fixés sur lui-même. Et il vient demander comment faire pour avoir la vie éternelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, sans aucune référence à Dieu. Cet homme a les yeux fixés sur lui-même. Il vient demander comment faire pour avoir la vie éternelle sans aucune référence à Dieu. Et Jésus retourne la situation en faisant lever les regards de cet homme vers Dieu. Cet homme est venu avec les yeux fixés sur lui-même, n'ayant même pas de référence à Dieu, et Jésus retourne la situation pour les faire lever pour voir Dieu. Personne n'est bon sinon Dieu seul. En fait, pour annoncer l'évangile, les hommes doivent d'abord comprendre que ce n'est pas l'homme qui a un droit envers Dieu. C'est plutôt aider à comprendre que Dieu a un droit envers l'homme. La première chose à connaître, c'est aussi qui est Dieu. La bonté, la sainteté, la perfection du Dieu créateur, donc propriétaire de ses créatures. Sans cette reconnaissance, l'homme ne peut pas comprendre qu'il offense Dieu par ses fautes. Et voici deux manières qui sont souvent utilisées pour ne pas faire face à la sainteté de Dieu. La première, c'est d'ailleurs ce que cet homme utilise ici, c'est en disant que l'homme n'est pas si mauvais. Il n'est pas si mauvais. Je n'ai tué personne. Vous avez jamais entendu ça? J'ai tué personne. C'est l'attitude du jeune homme dans Marc 10. Ça, c'est une attitude. Une deuxième, qui a la même notion, c'est en disant, si Dieu est bon, pourquoi tant de mal? Ce qui signifie, en fait, que c'est Dieu qui fait le mal et que l'homme n'en peut rien. Dans les deux cas, Dieu n'est pas reconnu pour ce qu'il est. Saint, c'est-à-dire totalement séparé du mal. Largement au-dessus de l'homme et ses pensées dans sa perfection. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Et le seul réflexe à avoir lorsque nous sommes devant Dieu, c'est l'adorer avec respect et crainte. Et c'est le réflexe de toute personne qui se trouve vraiment devant Dieu consciemment. Toujours. Jésus fait lever les yeux à cet homme en lui disant que Dieu seul est bon. Cela signifie aussi, dans ce contexte, que soit l'homme reconnaît que Jésus est Dieu et qu'il fera ce qu'il dira, ou soit il a utilisé le terme de bon maître pour le flatter et obtenir quelque chose, mais certainement pas pour lui obéir. Lorsque nous voulons présenter l'évangile à quelqu'un, veillons à ce que cette personne sache de qui nous parlons lorsque nous parlons de Dieu. Ce n'est pas un personnage imaginaire que nous avons créé. Ou comme la théorie évolutionniste dit que l'homme petit à petit a forgé. Non, il se révèle dans la Bible. Faisons donc lever les yeux en lisant, par exemple, un texte comme dans Isaïe 41, les versets 12 à 31, où là, c'est la grandeur de Dieu qui est manifestée et qui nous est dit dans sa parole. Si Jésus a fait lever les yeux de cet homme, il lui a aussi fait baisser les yeux sur sa vie. On peut aussi dire qu'il l'a rejoint. C'est la deuxième partie ici. Il fait baisser les yeux à cet homme. Jésus sait très bien qu'il n'est pas possible de recevoir la bonne nouvelle du salut sans être conscient d'être perdu. Jésus sait très bien qu'il n'est pas possible de recevoir la bonne nouvelle du salut sans être conscient d'être perdu. Pas possible de recevoir la bonne nouvelle d'être gracié si nous ne savons pas que nous sommes condamnés. Si on vient vers vous et dit « Vous êtes gracié !» Ok, merci, sympa. Mais vous ne savez pas que vous êtes condamné. Non, il n'est pas possible de recevoir la bonne nouvelle d'être gracié si nous ne savons pas que nous sommes condamnés. Et Jésus sait que la loi est le moyen, le pédagogue qui révèle le péché et la condamnation. Voilà une raison générale qui pousse Jésus à parler des commandements à l'homme qui est venu le questionner. Il y a aussi une raison particulière en lien à sa situation, mais la raison générale, c'est en fait que la loi permet, révèle le péché et la condamnation. Et aujourd'hui, les hommes, et parfois même les croyants, veulent bien reconnaître qu'il faut obéir aux autorités civiles. Ça, on veut bien le reconnaître. Mais reconnaître qu'il est impératif de suivre la loi de celui qui est au-dessus de l'autorité civile, ce n'est pas si évident. Ou carrément combattu. Pourtant, tout homme et toute femme est une créature de Dieu, et donc sous sa loi, qu'il a d'ailleurs imprimée dans la conscience. Voilà pourquoi le fait, par exemple, de tuer quelqu'un sans raison est quelque chose de vu comme mal par tous. Paul dira dans Romains 7, pour souligner cette notion, que la connaissance du péché vient par la loi, il dit « J'ai connu le péché par la loi ». Car la loi me permet de savoir si je suis coupable et qu'il y aura un jugement. Et ce jugement est certain. Jésus, d'ailleurs, dans son sermon sur la montagne, a été très explicite, où il explique l'esprit de la loi qui sonde les cœurs. Vous vous rappelez peut-être de ces textes dans Matthieu 5, où il dit « Vous avez entendu parler qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, se pousser contre sa sœur, si jamais, quiconque se commet en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin, celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la gêne du feu. Ou un peu plus loin, vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Pourtant, le jeune homme qui vient vers Jésus ici se croit juste. Et je peux vous dire qu'il le pensait réellement. Il le pensait réellement. Et il pensait que tout le monde pouvait témoigner de sa bonne foi. Il ne regardait pas à son cœur. Le jeune homme de Marc 10 face à Jésus est tellement semblable à monsieur et madame tout le monde. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas couché avec la femme de mon voisin. Je n'ai pas commis un braquage. Je n'ai pas dit de gros mensonges. En fait, je suis gentil. Je laisse mes parents tranquilles.
En fait, c'est tout ce que Jésus a demandé à ce jeune homme que je viens de répondre ici.
Quand il vient demander pour hériter la vie éternelle, ce jeune homme ne vient pas dans une attitude de sainte crainte devant Dieu, sachant qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Non, en fait, il vient vers un agent d'assurance pour avoir une assurance vie éternelle. Voilà ce que fait ce jeune homme. Et Jésus comprend la situation. D'un regard, il voit ce jeune homme qui se trompe lui-même sur sa situation. Jésus connaît le cœur de cet homme. Jésus a utilisé la loi pour aider cet homme à voir sa situation de pécheur devant Dieu. Mais il est aveuglé par sa propre justice, son auto-justification. Typiquement, si quelqu'un vous dit « Là, c'est mal ce que tu as fait », qu'est-ce qu'on répond souvent ? « Mais attends,
T'as pas vu ce que l'autre a fait? C'est bien pire! Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Alors, on le dit pas, mais c'est un peu le message qu'on veut transmettre. Cet homme est aveuglé par sa propre justice, son auto-justification, et aussi par son effort à faire les choses justes. Il cherchait à faire juste. Même l'apôtre Paul disait lui-même qu'il se considérait comme juste avant d'être converti. En fait, c'est un peu comme si Jésus avait donné des lunettes à un malvoyant, mais que celui-ci ne les utilise pas pour lire le journal qu'il lui tend. Alors, il arrive tout juste à lire les gros titres, mais pas le reste. Alors, n'ayons pas peur de dire ce que Dieu aime. Les lois qu'il a mises en place pour sa gloire, pour le bien de l'humanité. Il aime la vie. Il aime la beauté, de la pureté, de la fidélité. Le respect des biens des autres, la vérité. Il cherche le bien des autres, le respect des aînés. Pour prendre simplement d'autres termes pour dire ce que Jésus a dit à cet homme. J'ai dit exactement la même chose que ce que Jésus a dit. En citant les commandements, je simplement utilise d'autres termes. Jésus regarde cet homme et l'aime. Il l'aime. Je vous ai dit, il faut jamais oublier ça. Jésus l'aima. Vous savez pourquoi il faut jamais l'oublier? C'est aussi parce que ça me concerne. Ça te concerne. Quand Jésus me voit agir de manière... Non, ça, j'ai rien fait. C'est pire. Jésus l'aima. Comprendre que Jésus comprend ce qui se passe et nous aime. Et évidemment, lorsque nous sommes face à des personnes qui sont dans cette situation, d'avoir cette même attitude que le Maître qui aime. Ensuite, dans cet amour, justement, il pose une question qui ouvre le cœur. Troisième élément, il prépare le cœur de cet homme. Il te manque quelque chose. Donne toute la place au roi et débarrasse-toi de ce qui t'empêche de lui donner toute la place. Et pour ce jeune homme, c'est la richesse matérielle, une idole qu'il servait et dont il ne voulait pas se débarrasser. En fait, Jésus renverse la situation pour dévoiler le cœur de cet homme. Cet homme est venu comme un client. Il est venu comme un client demandant à un agent d'assurance de lui indiquer comment acquérir la vie éternelle en héritage. Voilà. Donc cet homme est venu comme un client demandant à un agent d'assurance de lui indiquer comment acquérir une vie éternelle en héritage. Et Jésus renverse la situation. Jésus aimerait que cet homme comprenne que c'est Dieu qui demande d'enlever tout ce qui peut placer son assurance en dehors de Dieu. Jésus aimerait que cet homme comprenne que c'est Dieu qui fait une demande d'enlever tout ce qui peut placer son assurance en dehors de Dieu. Jésus veut lui montrer qu'il ne respecte pas la loi de manière parfaite comme il le pensait lui. Et il donne une application en fait du 10e commandement qui s'adresse au cœur. Jésus voit au fond du cœur. Dieu voit au fond de notre cœur. Il sait ce que nous cachons à tous. Il connaît nos motivations. Même les motivations qui sont pas claires pour nous. Comme chercher à être bien vu en faisant des bonnes œuvres. Attention. J'ai pas dit qu'il faut cesser d'aider nos prochains. Mais ne le faisons pas pour être vu. C'est de l'orgueil. Faisons-le plutôt pour répondre à l'amour de Dieu. Donc on le fera qu'on soit vu ou pas. On le fera étant motivé par l'amour de Dieu. Repentons-nous de nos péchés cachés, que lui seul voit. De nos motivations centrées sur nous et sur toute autre chose que sur le Créateur à qui nous devons tout. Vous savez, Jean, il dit quelque chose de très fort dans son épître, dans 1 Jean. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Là, je fais une petite parenthèse, mais qui est en lien avec ce que Jésus fait ici. c'est que Jésus n'attend pas d'être invité. Certains utilisent le texte de Apocalypse 3:20 pour dire que Jésus frappe à la porte de notre cœur et qu'il attend sa réponse. Certains vont même jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une serrure à l'intérieur et qu'en fait, il ne peut rien faire de l'extérieur, il doit attendre que, voilà, que la porte s'ouvre. Mais c'est une mauvaise utilisation d'Apocalypse 20, qui dans son contexte parle d'une église que Jésus est en train de quitter. Et il frappe avant de partir pour encourager à ne pas le laisser partir et à ne pas être jugé. Non, Jésus ne frappe pas avec désespoir devant une porte qui restera peut-être fermée. Non, il vient délivrer ceux qui se rendent compte du mauvais état de leur cœur, de leur état condamné, qui demandent de les sauver malgré leur juste condamnation, s'approchant de cet agneau roi qui s'est donné pour ceux qui se repentent. Ce n'est pas l'homme qui pose les conditions, c'est Dieu à qui nous appartenons par création et pour qui nous sommes censés vivre. Jésus dit à l'homme qu'il lui manque quelque chose. C'est d'avoir son cœur, donc son trésor, au ciel, conscient qu'ici-bas, il ne peut pas obtenir le salut par ses mérites ou ses moyens. L'homme qui était vers Jésus s'en va tout triste. Il n'a pas reçu la vie éternelle qu'il était venu chercher. Il avait pourtant fait tout juste. Il avait accosté Jésus avec respect. Il avait même donné toutes les bonnes réponses, mais ne voulait pas que son cœur soit touché. Tout, mais pas mes richesses. Je veux bien payer pour recevoir la vie éternelle, mais donner aux pauvres et se mettre dans une dépendance totale de Jésus, sans aucun moyen, sans mérite, et en lui faisant totalement confiance, nous ne savons pas ce qu'est devenu cet homme par la suite. Moi, j'aime croire qu'à la résurrection, il a reconnu sa folie de s'accrocher à ce qui n'allait pas le suivre dans l'éternité. Mais on ne le sait pas. Personne ne le sait. Enfin, Dieu le sait, évidemment. Mais pour l'instant, dans l'histoire, Jésus le laisse ainsi. Heureusement que Jésus ne lui a pas dit « Jésus t'aime, veux-tu être sauvé ?» Il aurait répondu « Oui ». Et ensuite, Jésus aurait dit « Prie, je regrette mes fautes, je te remercie de m'avoir sauvé. » Ce qu'il aurait sans doute fait. Et ensuite, Jésus lui aurait dit « C'est bon, t'as la vie éternelle. » Mais Jésus n'a pas fait cela. Car il ne fait pas croire à cet homme perdu qu'il est sauvé. Voici des bonnes questions à se poser. La grâce divine a-t-elle touché mon cœur au point de me disposer à me soumettre avec joie à la parole de Christ? Quelles motivations agissent sur ma volonté? Quelles pensées dominent mon esprit? Quel est l'effet de l'évangile dans ma vie? Est-ce que j'aime étudier, lire, parler de la parole de Dieu avec d'autres croyants, ou même des non-croyants, ou est-ce que même la lecture de la Bible change quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'aime prier Dieu? Est-ce que le péché me dérange à tel point que je ne peux pas le commettre consciemment sans être tourmenté jusqu'à ce que je m'en repente? Est-ce que j'aime ceux qui aiment Jésus-Christ? Est-ce que je cherche leur présence? Voilà des bonnes questions à se poser. Voici une petite histoire pour réfléchir à la rencontre de cet homme avec Jésus. Une chenille rencontre un papillon et lui dit « Magnifique papillon, comment puis-je devenir un papillon ?» Le papillon lui dit « Tu connais la façon de se nourrir des papillons. Ils mangent le nectar des fleurs. »« Oui, répond la chenille, j'ai fabriqué une paille et je suce le nectar dans les fleurs. » Le papillon regarde avec amour cette chenille et lui dit alors « Il te manque une chose. » « Envole-toi !» Pour s'envoler, la chenille devrait d'abord tout perdre ce qu'elle a dans une chrysalide pour devenir un papillon. Pour avoir la vie éternelle, nous devons devenir comme des petits-enfants, complètement dépendants, sans moyens, dépourvus de mérite et faisant totalement confiance à Jésus. Si Jésus fait lever les yeux pour faire reconnaître qui est Dieu, s'il fait baisser les yeux pour indiquer ce que Dieu veut, et s'il prépare le cœur pour en faire ressortir les vraies motivations, pourquoi ne ferions-nous pas de même? Faire lever les yeux en posant des questions. Faire baisser les yeux en posant des questions. Préparer le cœur en posant des questions et en priant que Dieu agisse. Regardant autour de lui, lorsque l'homme part tout triste, Jésus dit une chose stupéfiante. C'est ce que nous allons voir dans notre dernier point. Relisons donc Marc 10, 23 à 31. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes. » Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, « Mais voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « en vérité, je le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive pas au centuple présentement dans ces temps-ci, et des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Jésus souligne trois choses dans ce texte que nous allons brièvement aborder. Parce qu'on a déjà pris bien du temps avant, donc on va aller plus bref maintenant. Jésus dit que c'est impossible d'être sauvé. Jésus dit que c'est possible d'être sauvé. Et Jésus rassure Pierre. Voilà les trois éléments que nous voyons dans ce texte. Jésus dit que c'est impossible d'être sauvé. D'abord, Jésus dit que c'est difficile, puis dit que ce n'est pas plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Qui a déjà fait de la couture ici? Si vous avez déjà fait de la couture, vous avez déjà pris une aiguille. Vous avez même déjà... Alors déjà, passer le fil dans le petit œillet de l'aiguille, c'est pas facile. Hein. Mais imaginez que vous faites un trou dans le tissu et qu'ensuite vous devez passer le fil dans le trou du... Waouh, c'est déjà pas facile. Alors vous pouvez prendre un chameau en forme de nounours puis essayer déjà de le passer. Jésus parlait d'un chameau, un vrai chameau. En fait, faut même pas y penser. C'est impossible. Cette image est donnée par Jésus pour parler de quelque chose d'impossible. Possible. Je sais bien que certains ont dit, on a retrouvé une porte qui s'appelle la porte de l'aiguille, où les chameaux devaient se baisser, c'était difficile de passer, et Jésus est en train de parler de ça. Encore faut-il prouver que cette porte existe en dehors de l'imagination de ceux qui pensent que les hommes peuvent se sauver par eux-mêmes. Et ça va pas du tout dans le sens de ce que Jésus dit dans ce texte. Le verset 27, regardez le verset 27, il est sans appel. Cela est impossible aux hommes. Impossible. Vous comprenez le mot? Impossible. Maintenant, vous allez devoir imaginer quelque chose, donc il faut faire aller votre imagination. Imaginez qu'un robot a été fait pour vous donner un centime chaque seconde. On verra si vous arrivez à suivre cette technique aujourd'hui. Un robot a été créé pour vous donner un centime chaque seconde. En fait, il reçoit un centime par seconde, et s'il ne donne pas ce centime à une personne, il se détruit. Donc il ne peut pas accumuler d'argent, vous avez compris, il ne peut pas accumuler ses centimes. Voilà que chaque jour, pendant 6 mois, il s'arrête de vous donner les centimes pendant 15 minutes. Pendant 6 mois, il s'arrête chaque jour pendant 15 minutes. Il fait sa pause, quoi. Puis il ne vous donne plus ce centime. En fait, après 6 mois, ça fait 180 000 centimes de dette envers vous. Alors heureusement que pour l'instant, il ne s'arrête plus autant que ça. Il ne s'arrête plus là, chaque jour, heureusement. Mais pourra-t-il vous rembourser? Impossible.
parce que chaque centime qu'il recevra jusqu'à la fin de son existence vous appartient déjà. Et il n'est pas possible de faire des heures supplémentaires, puisque chaque seconde vous appartient. Il n'est donc pas possible pour ce robot de vous rembourser sa dette. Tous les centimes qu'il ne vous aura pas donnés, vous ne les recevrez jamais, donc il ne peut pas rembourser sa dette. Chaque seconde de nos vies appartient à notre Créateur. En fait, nous sommes appelés à agir en sa faveur. C'est lui donner les centimes de chaque seconde. Quand Jésus parle de salut, il parle du remboursement de la dette qu'il est impossible de rembourser. Quand Jésus parle du salut, il parle du remboursement de la dette qu'il est impossible. C'est impossible aux hommes, comme à notre cher robot. Avant même le verset 27, les disciples ont compris l'image du chameau et trou de l'aiguille. C'est pourquoi ils posent la question, mais alors, qui peut être sauvé? La réponse est claire. Vous la connaissez? Personne. C'est la réponse, hein? Qui peut être sauvé? Personne ne peut se sauver par lui-même.
Pour la suite, évidemment.
Personne ne peut se sauver par lui-même. La chenille ne peut pas voler et le robot ne peut pas rembourser. Personne ne peut se sauver par soi-même, comme la chenille, comme elle est, ne peut pas voler et le robot ne peut pas rembourser. Cela doit être clair quand nous apportons l'évangile ou lorsqu'on le reçoit. Je ne peux sauver personne, ni ne peux me sauver par mes forces. J'ai besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'a pas à payer chaque seconde. Et Jésus n'a pas terminé sa phrase au verset 27, heureusement. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et notre espérance, notre assurance, notre motivation, notre joie, c'est cette phrase. Tout est possible à Dieu. S'il n'y avait pas cette phrase, s'il n'y avait pas cet élément dans la parole, cette notion, je ne prêcherais plus. Je vous le dis franchement. Ça sert à rien. C'est impossible. C'est même impossible par ma prédication de changer une vie. Impossible. Ouais. Mais tout est possible à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes aussi là et nous annonçons l'évangile. L'homme riche a un espoir. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'évangile, c'est pas une œuvre à faire. Mais c'est la foi en une œuvre déjà faite. L'évangile, c'est pas une œuvre à faire. C'est la foi en une œuvre déjà faite par Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il faut attendre que Dieu frappe de la foudre pour se repentir? Puis c'est déjà fait, ben on attend. Ou un signe qui dit, maintenant, c'est le moment. Puis tant qu'on n'entend pas cette voix avec cette intonation-là, c'est pas un signe. Puis en attendant, on s'occupe de ses affaires. Non, la Bible dit, alors écoutez bien, parce que c'est la Bible qui le dit, on le trouve dans Hébreux 3 fois et dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui. Si tu comprends que tu es pécheur, que tu mérites l'enfer, Jésus dit, viens à moi. Viens. Peut-être ce soir c'est trop tard. Hein. Viens à moi. Nous ne contrôlons pas notre vie. Un peu comme devant un bon repas équilibré. Noël, il y a bien bons repas, on dit qu'ils sont équilibrés. Pour se faire bonne conscience. Vous n'attendez pas un signe du ciel qui vous dit « J'attends ce signe avant de manger. » La foudre tombe à côté de moi. Là. Oh, c'est bon, je peux y aller, je peux manger. Vous faites ça? Ça serait même de la rébellion contre Dieu. Qui vous a donné ce beau repas pour que vous le mangiez sans attendre un signe, tout en exprimant notre reconnaissance. La chenille va se mettre en chrysalide, abandonnant toutes ses habitudes passées. Pierre a bien compris que le riche devait donner tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Est-ce que Pierre avait vraiment compris ce que ça représentait au niveau de l'attitude du cœur? Je ne suis pas sûr. Voilà pourquoi il demande à Jésus... Nous, on a tout quitté. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Vous avez vu la fin du texte?
Puisque Jésus dit c'est impossible, on possible à Dieu, mais puis nous, on a tout quitté. Et Jésus rassure Pierre. Et en même temps, tous les chrétiens de tous les temps. Il arrive que parfois, des doutes nous assaillent. On se demande si nous avons besoin, si nous avons bien fait de suivre Jésus-Christ. Est-ce qu'on a bien fait de le suivre? Eh bien, vous savez quoi? Personne dont le cœur s'est donné à Jésus-Christ ne sera déçu. Personne dont le cœur s'est donné à Jésus-Christ ne sera déçu. Il recevra la vie éternelle. C'est vrai que la petite remarque de Pierre ici sur la notion de la persécution, qu'il est aussi un des seuls, le seul à mettre par rapport aux autres, est un peu particulier, perturbant peut-être. Faut pas oublier que l'évangile de Marc était envoyé à Rome, à une église où il y avait une persécution qui était assez féroce à ce moment-là. Et la persécution, parce que l'on croit que Jésus-Christ, qui accueille toute personne sans distinction de classe sociale, de santé, de capacité, de force, et qui rejette tout péché selon la Bible, la persécution de ceux qui vivent ça est plus ou moins marquée selon les périodes de l'histoire. Il est possible que nous soyons aux portes d'une situation plus difficile, mais restons unis en Christ. Ne cherchons pas notre bien, mais ce qui plaît à Dieu en premier. En conclusion, rappelons-nous que Jésus a donné un principe. Il faut recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Souvenez des quatre éléments. Dépendant, sans moyens, sans mérite et totalement confiant. Jésus a montré à ses disciples comment préparer le cœur de celui qui vient demander comment recevoir la vie éternelle. Jésus a clairement expliqué que tout est possible à Dieu qui a tout accompli pour faire entrer dans le royaume de Dieu ceux qui le reçoivent comme un petit enfant. Alors voilà une question qui nous est donnée aujourd'hui. Si tu n'as pas encore la vie éternelle, si tu ne l'as pas, qu'attends-tu pour reconnaître Dieu, que Dieu a raison de te condamner? Et qu'en lui demandant grâce et en comptant sur le paiement de la dette de Jésus, tu es libéré et tu reçois la vie éternelle. Et si tu as reçu la vie éternelle, comment vas-tu la partager? Que Dieu nous aide à imiter Jésus en faisant tourner les regards vers le haut, vers le bas, et pour préparer le cœur à recevoir l'évangile de Christ qui libère, qui purifie, qui permet que le cœur soit complètement et une assurance complète en Dieu et en rien d'autre. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci parce que tu es un Dieu qui est tellement pratique, qui connaît que nous sommes des personnes oublieuses, qui avons besoin de rappels constants. Eh bien, Seigneur, tu nous parles de petits-enfants que l'on peut voir très régulièrement dans nos vies. Quelle grâce, Père, que tu utilises des images, des éléments qui nous permettent très souvent de penser à ce que tu as dit. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous voyons un petit-enfant, déjà d'être reconnaissant pour la vie que tu lui donnes, parce qu'elle vient de toi. Et aussi de nous souvenir de ces notions importantes, qu'il est complètement dépendant, qu'il n'a pas de moyens, il ne peut pas nous payer quoi que ce soit, il n'a pas de mérite, qu'il a une confiance totale. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette même attitude, qui est celle que tu as soulignée, qui était importante pour ce jeune homme qui est venu vers lui, pour te demander la vie éternelle. Éternel, nous te prions de nous donner la force et la sagesse de te mettre en avant. C'est toi qui donnes les conditions. Parce qu'en fait, en les donnant, tu nous donnes aussi le meilleur. J'aimerais te prier aussi, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre que le salut n'est pas juste un ticket, n'est pas une assurance vie, n'est pas un contrat que l'on signe avec toi et puis qu'on va ressortir au moment où on en a besoin. Non, Seigneur, j'aimerais te prier de nous aider à comprendre que tu es celui qui veut transformer nos cœurs, qui veut purifier nos consciences, qui veut nous donner la joie d'être des témoins fidèles, qui veut nous donner la joie de vivre dans notre métier, dans nos travaux de tous les jours, dans nos tâches domestiques, dans tout ce que nous vivons, Seigneur, dans la joie de le faire, parce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes la capacité à être des personnes qui aident d'autres, qui vivent aussi simplement le rôle que tu nous as donné. Permets, Seigneur, que l'Évangile réellement transforme nos vies. Et nous permettre, Seigneur, de l'annoncer autour de nous, que les gens voient que mais c'est trop fantastique cette transformation. Il n'y a plus d'attachement à des choses qui pourraient faire du mal aux autres. C'est un attachement total à celui qui est parfaitement bon. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce dans ces temps de Noël de vivre cela. Et de nous rappeler que cet enfant qui est dans une crèche, dans l'imagerie que nous avons souvent, est venu justement pour nous libérer d'une dette que nous ne pouvions pas payer. Parce que lui-même, étant Dieu, ne devait aucun centime, ne devait rien. Il s'appartenait à lui-même. Sois loué, sois béni, Père, parce qu'il est venu pour nous sauver. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.